Je sais pas si cette personne-là, peut-être, m'avait demandé, non, elle n'est pas là, et m'avait demandé de parler de la référence du Talmud sur le texte qui porte les noms du Mashiach. Qui se souvient d'avoir posé cette question?
Ah oui.
Elle est assise là, mais elle n'est pas là. Bon, on le voit quand même, okay. Tout à l'heure. Et de vous parler, c'était au dernier cours que je vous en avais parlé, finalement du chapitre d'Ézéchiel, c'est le chapitre 38, qui traite de ce qu'on appelle, de ce qu'on connaît sous le nom de la guerre de Gog et Magog. Alors, on va commencer par là. Et puis, alors, rassurez-vous, j'ai l'intention de vous rassurer. Ne croyez pas que ça va être apocalyptique, catastrophique. Je me demande de ce genre. Et je vais d'abord donner une référence qui se trouve dans la Gemara de Brachot. Et ensuite, nous aborderons le texte lui-même. Alors, ce texte se trouve à la fin du premier chapitre de la Gemara de Brachot. Je vais vous donner la référence, nous allons le lire rapidement. Alors, vous prenez la page 13a dans Brachot. Enfin, vous prenez la page, vous n'avez pas les livres. Vous prendrez. Voilà, c'est simplement une référence introductive. Et dans cette Mishnah, on parle de la manière dont Pessah sera commémoré à la fin des temps d'exil. C'est-à-dire, Pessah, comme vous le savez, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Et nous avons là une proposition qu'il arrivera un temps, et cette proposition du Talmud est enseignée sur un verset de Jérémie que je vais vous lire immédiatement, il arrivera un temps où la commémoration de la première délivrance historique de la fin d'un exil, la sortie d'Égypte, n'aura plus tellement comme référence historique la sortie d'Égypte elle-même, du point de vue des événements, mais les événements de délivrance, de Géoula, de libération, de la fin des temps d'exil. Vous voyez comment est cette proposition, et nous allons, à ce propos, va se greffer une allusion, parmi d'autres, il y a d'autres références dans l'ensemble du Talmud, mais on va prendre celle-là, une allusion à ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Bon. Alors, je vous rappelle simplement comme articulation que nous avons un thème général qui a été souvent cité, c'est qu'il y a trois exils dans l'histoire d'Israël correspondant à l'histoire des trois patriarches. Un des thèmes parmi d'autres. En ce sens que, cela nous l'avons appris souvent, dès le début de l'histoire d'Israël, nous sommes avertis par le récit biblique et par la cohérence de l'ensemble des prophéties que pour des raisons qui s'étudient pour elles-mêmes, l'éventualité de la dispersion et que la dispersion se transforme en oppression d'exil s'attache à l'histoire d'Israël a priori de tout événement, d'une forme vide. Si tu es Israël, sache que s'attache à ton histoire l'éventualité de l'exil. C'est un problème pour lui-même, mais que nous étudions d'autre part. Par exemple, dans la théorie qui n'est pas vide de sens, bien sûr, la théorie que l'exil serait punition, mystère, punition de quoi? C'est un autre problème. Eh bien, il faut bien s'apercevoir que l'histoire n'a pas commencé avant que, déjà, Abraham s'entend dire, lorsqu'il demande un signe pour savoir si, effectivement, la promesse de la descendance peut être diagnostiquée par un signe, à quel signe je reconnaîtrai que c'est bien moi qui suis le véhicule de cette promesse de la postérité que tu me donnes, postérité destinée à être bénédiction pour toutes les familles de la terre, et Dieu lui répond comme signe, eh bien sache que le signe c'est que si c'est toi qui es au point de départ de cette descendance qui sera nommée Israël, sache que ta descendance est dans le cas d'avoir à être exilée. Or, l'histoire n'a pas commencé, et donc on ne voit pas très bien de quelle faute ce serait punition a priori. Il y aurait ici une espèce de thème de péché originel, même si on imputait cette faute à Abraham lui-même. Bon. Je vous cite ça de façon très récapitulée, simplement pour donner un coup de projecteur sur le problème. C'est-à-dire que on établit donc ce parallèle. Abraham, Isaac, Jacob ont engendré l'identité d'Israël à travers toute une gestation d'identité, sélection d'identité, et en fin de compte, nous voyons que c'est important à mettre en évidence qu'ils ne sont pas des sosies au niveau de la vertu. Chacun d'entre eux est un tzaddik, mais chacun d'entre eux est un tzaddik d'une vertu particulière. Tzaddik, ça veut dire celui qui a fait la preuve qu'il peut être nommé du nom de cette vertu. Injuste. Et alors, comme vous le savez, Abraham est le tzaddik de Midat HaChesed, Yitzhak, le tzaddik de Midat HaDin, et Yaakov, le tzaddik de Midat HaEmet. Il nous faudrait toute une année de séminaire pour développer cela. Et c'est d'ailleurs à cela que nous avons été initiés à cet enseignement par notre maître Jacob Gordin. Je parle pour ceux qui ont eu le privilège d'avoir été ses élèves. Par cette histoire-là. Et alors, le thème que je voudrais mettre en évidence est celui-ci, c'est que de même qu'Abraham, Isaac, Jacob, à l'échelle individuelle, ont eu à vivre l'histoire de cette vertu, à en faire la preuve, et ce n'est que lorsqu'ils l'ont acquise, justifiée, se sont justifiés par rapport à elle, qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches, comme nous disons en français, de même, la postérité d'Israël, en tant que société, en tant que collectivité, non plus en tant qu'individu, a à faire cette preuve à l'échelle de ces trois vertus. Et donc, il y a trois séquences dans l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Bien, recordez-vous, 6000 ans, vous vous rappelez des cours du matin. Et corollairement à ces trois séquences, si j'ose dire, alors il y a trois dimensions d'exil possibles dans trois civilisations différentes, et avec pour objet de mettre en évidence à l'échelle de la collectivité d'Israël l'effectuation de chacune de ces vertus. Ceci s'étudie pour lui-même. Bien. Et donc, la sortie d'Égypte, elle, c'est la fin du premier exil qui correspond à l'histoire d'Abraham. La sortie de Babel, au temps d'Israël et de Néhémie, c'est la fin du deuxième exil qui correspond à l'histoire d'Isaac. Et la sortie de l'exil de Rome, de Édom, est la fin du troisième exil qui correspond à l'histoire de Jacob. Vous rejoignez le thème de la rivalité Jacob-Ésaü. Ce n'est pas pour rien qu'elle est effectuée dans ce troisième exil qu'on appelle à Galut, à Chel, à Zé, à Aroch, à Zé, ce long, long exil de 2000 ans. Bon. 400 ans, le premier exil en Égypte, et on a économisé 190 ans, vous vous rappelez? Nous étions là-bas, vous vous rappelez? Et ça n'a duré finalement que 210 ans, ces 190 ans, il a fallu les éponger, si j'ose dire. Et puis ensuite, 70 ans, grosso modo, un peu plus, un peu moins, suivant les individus qui ont vécu cette époque, autant de l'exil du Beit Rishon, l'exil de Babel, ceux qui sont revenus, et puis de notre temps finalement, 2000 ans grosso modo, mais très exactement 1900 ans. C'est 1900 ans après la destruction du Temple que nous avons, si j'ose dire, fêté Tisha B'Av à Jérusalem. Bon, 1900, c'est-à-dire 10 fois 190, mais c'est une coïncidence. Donc. Alors, revenons donc à notre problème. Nous avons dans l'étude de la Gemara, que je vous cite, la proposition suivante, Be'acharit Hayamim, à la fin des temps du dernier exil, eh bien, et c'est appuyé sur un verset du prophète Jérémie que je vais vous lire, en vous donnant la référence du chapitre, eh bien, la commémoration de la Géoula, Pessah, on ne parlera plus tellement des événements de la sortie d'Égypte, mais des événements desquels on vient de sortir, dans le temps contemporain de la fin de ce troisième exil, c'est-à-dire à la fin de cette troisième période de 2000 ans, dans les 6000 ans, et le calendrier hébraïque nous situe dans cette époque. Alors, le verset se trouve dans Jérémie, chapitre 23, et dit ceci, « Hime yamim bayi, voici des jours viennent, Neum Hashem, parole de Dieu, Velo yomru od, et on ne dira plus, Hay Hashem, vivant et Dieu, Asher elaet bnei Israël, qui a fait monter les enfants d'Israël, Meheret Mitzrayim, du pays d'Égypte, qui, mais on dira, Hay Hashem, vivant Dieu, Asher Ela, qui a fait monter, va Asher Hevi, et qui a fait venir, et Zerar Bet Israël, la postérité de la maison d'Israël, Meheret Safona, du pays du Nord, ou Mikola Aratzot, et de tous les pays. C'est-à-dire, Jérémie, il y a très 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 longtemps, eh bien, lance ce verset. Il nous dit, arrivera un temps dans longtemps, longtemps, que l'on ne dira plus Pessah de Mitzrayim, le Pessah où on se raconte Halach Mahania et toute la sortie d'Égypte elle-même, bon, du temps de Moïse. Mais voilà, on ne dira plus vivant est Dieu qui nous a fait sortir de cet exil-là, mais vivant est Dieu qui nous a fait sortir de notre exil à nous, d'où nous revenons, des pays du Nord et de tous les pays. Avec un programme très précis. Okay? Parce que, effectivement, comme le dira Maïmonide, cet après-midi, je citerai beaucoup Maïmonide, et je vous l'ai dit souvent dans ce séminaire, c'est que ça n'a aucun objet, à moins de disposer d'un temps de préparation et d'un temps d'étude minutieux, de s'accrocher sur des correspondances de détails, mais qu'il faut voir beaucoup plus évidemment la massivité des événements. Et c'est Maïmonide qui le dit déjà dans les Hilchot Melachim, que comment les choses se passeront dans le détail, personne ne le sait, il faut y assister. Mais que ce sont ces choses-là qui se passeront, ça nous le savons par prophétie et par tradition. Alors vous voyez que le verset n'a pas parlé de la Russie, mais du pays du Nord. Mais il est évident que ceux qui ont vécu l'histoire du judaïsme de Russie savent que le rassemblement des exilés a commencé par un tnoufa, une pulsion venue des Juifs de Russie et de tous les autres aussi. Okay. Bon, si vous voulez que le pays du Nord, ça soit la Syrie, pourquoi pas? Okay. C'est toujours un pays du Nord. Okay. Et qu'en hébreu, Souria et Roussia, c'est exactement les mêmes lettres, c'est une coïncidence. Ce n'est pas de ça qu'on se coupe. Vous comprenez? Mais vous voyez comment ce que nous dirait Maïmonide, c'est l'événement lui-même. C'est-à-dire il y aura un rassemblement des exilés qui concerne tous les pays, et non plus, comme au temps de la sortie d'Égypte, un pays où tout Israël était là-bas, dans une civilisation. Mais un rassemblement des exilés qui concerne tous les pays, et avec quand même une indication qu'un pays du Nord, et à l'époque, Jérémie n'était pas censé savoir qu'en fin de compte, les Slaves finiraient par s'appeler Russes. Vous comprenez ce que je dis ? Il parle du pays du Nord. Bon, c'est une identification symbolique, que le mal vient du Nord, Mitzafon Tipata Harara, mais tout cela, encore une fois, je ne pense pas que ça ait d'objet d'entrer dans les correspondances de détails. Qu'est-ce que veut dire la Gemara ici? En disant ceci, c'est que la proposition précédente est que même au temps du Messie, l'Imota Mashiach, au temps du Mashiach, on se rappellera à la sortie d'Égypte, ça c'est la proposition précédente, parce qu'elle a eu une telle importance en tant que point de départ, que même lorsque tout le cycle de ces tribulations sera achevé avec le Mashiach, on se rappellera quand même de l'importance de la sortie d'Égypte. Que si elle n'avait pas eu lieu, il aurait fallu qu'elle ait lieu. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Que c'est un point de départ irréversible qui va garder son impact dans la mémoire, même lorsque tout ce cycle préhistorique de ce monde-ci sera achevé au temps du Messie, on se rappellera au début. Eh bien voilà, c'était la sortie d'Égypte. Bon. Et là, la Gemara objecte en disant, au nom de Benzoma, en disant, mais nous avons un verset de Jérémie qui dit, Lo yomru od, on ne dira plus. Contradiction. Vous y êtes ? Alors voilà comment la Gemara intervient pour dénouer cette contradiction. Elle dit ceci. Lo shete aker yetiat mitzrayim mekoma. La Gemara explique. Voilà comment il faut lire Isaïe. Emporté par son élan, n'entendez pas une phrase exhaustive, exclusive, quand il a dit on ne parlera plus de la sortie d'Égypte, mais c'est le contraste qu'il veut montrer. Il ne veut pas dire que l'eau c'était acquérir tiat mitzrayim koma. Ça ne veut pas dire, dit la Gemara, que la sortie d'Égypte sera arrachée de son endroit, littéralement, qu'on effacera le souvenir de la sortie d'Égypte. Elle là, mais. Mais que l'effectuation de commémoration de ce que nous avons appelé la fin de Shebud Malchuyot, la fin de l'oppression des empires. Vous vous rappelez, nous avons parlé il y a deux cours, c'était jeudi matin, de cette époque qui commence en 1917 pour nous, et qui est la fin de Shebud Malchuyot. On commence à parler 2000 ans après d'indépendance d'une entité politique qui s'appelle Israël. Et de cela, on parlera surtout, dit la Gemara, ça, ce sera l'essentiel. Veyetziat Mitzrayim tafello. Et le rappel de la sortie d'Égypte sera secondaire. Non, pas secondaire, second. Pour dire, si un est dominant, l'autre est récessif. Je ne sais pas comment parlent les biologistes, un peu comme ça. C'est-à-dire, bien sûr, on aura un petit paragraphe pour dire, comme dans notre Agada maintenant, où on rappelle par une allusion la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim. Mais on ne la commémore plus. Oui. Et on commémore quoi? L'événement de la sortie d'Égypte. Alors, grosso modo, comme ça, à peu près, on rappellera par allusion Abraham, sorti d'Ur-Kasdim, par allusion, le peuple d'Israël sous la conduite de Moïse, sorti d'Égypte, et on expliquera les Hagid, Vegata le Mincha, on parlera en détail de la fin du troisième exil. C'est-à-dire, au fond, on pourrait le dire ainsi, des événements que nous avons vécus dans ces dernières générations. Aucun Sanhédrin, aucun tribunal rabbinique autorisé ne s'est encore assis, comme on dit en hébreu, sur ce problème. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. On n'a pas encore du tout envisagé le cas, mais c'est écrit dans la Gemara, ça viendra un jour peut-être quand les autorités diagnostiqueront, oui, nous savons que c'est vrai. Ça ne veut pas dire, et ceci est un problème dans le monde juif religieux, comme vous le savez, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des options personnelles. Et ces options personnelles sont à expliquer les unes et les autres, et les unes contre les autres d'ailleurs. Mais là, il y a une règle très importante. C'est la règle de la patience, de la halakha, c'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas des signes visibles pour tous, c'est visible pour chacun, pas visible pour un autre, mais à l'échelle unanime, anonyme, alors on n'a jamais l'habitude dans la tradition juive de poser des ultimatums, je ne sais pas comment dire, de chahuter le destin. Vous trouverez un mot français plus nuancé. Comment on dit ça ?
De bousculer.
De bousculer le destin, oui. C'est-à-dire de... est-ce que c'est clair ce que je dis ? Je pourrais vous citer X dispositions qui pourraient être prises légalement, mais qui risqueraient des schismes. Alors on ne les prend pas. Vous avez compris le problème ? Il faut bien s'habituer à cette... tant qu'il n'y ait pas de signes visibles objectivement par tous. Parce que il y a un grand verset, la Torah ne donne pas de piège. Ve'en l'amo mirchol. Il n'y a pas de mirchol. Bon. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je crois qu'il serait important, parce que ces sujets sont contemporains, actuels, préoccupants, brûlants. Il serait peut-être important, une fois que nous ayons un séminaire, alors, sur ce sujet-là, okay, et qu'on essaierait de mettre en forme ensemble, Michel et moi. C'est comme ça qu'on dit, ou moi et Michel ? Non, Michel et moi, c'est comme ça qu'on dit en français. Et je lui demanderai d'ailleurs que d'ici la prochaine rencontre, on puisse faire un bilan très précis des problèmes en controverse, mais de manière didactique, pas du tout idéologique, parce que là, on va retarder la venue du Messie. Razé Shalom. Et alors, vous comprenez, cette règle est très importante. Et je me dois de vous signaler quand même qu'il y a certains milieux israéliens qui ont une agada de Pessah déjà de cet ordre-là, mais ce n'est pas des milieux religieux. C'est dans certains kibbutzim de la Shomer HaTzair où à Pessah, on raconte la sortie des fours crématoires. Alors, ils ne savent pas, ou ils savent, je ne sais pas, que c'est écrit, mais ils le font un peu comme Banim Shoharim, des enfants rebelles. Okay. Mais il est bien évident que ceci ne prendra force légale que quand un Sanhédrin le décidera. Je pense que c'est clair. Et jusqu'à là, il est bien évident que nous devons dire la Haggadah de Pessah de la sortie d'Égypte avec ferveur. Et en ajoutant une place vide pour les Juifs de Russie. Ça, vous savez aussi. Bon, top. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien pour rien. C'est pas des coïncidences. Tout ça. Bon. Alors, une fois ceci élucidé, la Gemara a, comment dire, évacué la contradiction en disant « Il faut entendre quand le prophète parle dans sa véhémence. » Il n'a pas voulu dire qu'on va mettre un Maguen David sur la sortie d'Égypte. Pas du tout, ça on va le faire dans quelques jours d'ailleurs. Mais il a voulu dire qu'on parlera bien sûr de la sortie d'Égypte, mais ça sera, comme je vous ai dit, un peu récessif, alors que le gros du récit, l'impact du récit, ce sera... la fin de l'exil contemporain. Enfin, le troisième exil de Rome. Et là, la Gemara va nous donner des exemples d'un tel principe, du même principe. Alors, je continue la Gemara. Kayotsevo ata omer. Et par exemple, analogue, tu peux aussi dire ceci en lisant un verset qui se trouve dans le chapitre 35 de la Genèse à propos du changement de nom de Jacob. C'est que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël et que cependant le texte va, dans certaines circonstances, renommer Israël Jacob. Ça veut dire que c'est pas que le nom de Jacob va être annulé, il va devenir second par rapport au nom d'Israël. Et on nous apprendra très rapidement que c'est pas le cas pour Abraham. Que lorsque Abraham est changé en Abraham, on n'a plus le droit de revenir à Abraham. Mais Israël pourrait devenir Jacob. Bon, ça il faudrait peut-être un séminaire tout entier sur ces deux noms. Pourquoi la mutation d'identité d'Abraham est irréversible dès le début. alors que la mutation d'identité de Jacob en Israël n'est irréversible qu'à la fin. Et que tant que ce n'est pas la fin, Israël peut redevenir Jacob. Et ce que atteste le verset, alors je vous lis comment la Gemara l'explique. Loïkare Shimcha Rod Yaakov Kim Israël, ça c'est le verset. Le verset dit dans sa véhémence totale, ton nom ne sera plus nommé Jacob, mais Israël. Israël, Yeshemecha. Israël sera ton nom et plus Jacob. Un peu, si vous voulez, ce que depuis quelque temps j'ai introduit dans le vocabulaire de ces séminaires, s'appelait juif ou hébreu. C'est un peu parallèle, si vous voulez. Bon, mais un hébreu s'appelle quand même juif, même si un juif s'appelle pas encore hébreu. Et donc, tous les espoirs sont perdus. Jacob peut toujours s'appeler Israël, mais Israël peut de nouveau s'appeler Jacob. Et voilà comment la Gemara l'explique. Loshi Aker Yaakov Mimekomo, ça ne veut pas dire que le nom de Jacob sera effacé, et là Israël a écart. Mais le nom d'Israël deviendra l'essentiel, Yaakov Tafello, et le nom de Jacob second. Bon. Et c'est là que nous arrivons à notre citation. Alors voyez comment procède la Gemara en quelques lignes, mais avec une stratégie extraordinaire. Okay? D'étape en étape, on va nous faire monter d'un coup à une vision, globale, totale de la fin des temps. En disant, d'une certaine manière, mais vous savez, nous avons vécu ces choses-là, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, rappelle-toi, et maintenant voilà. Okay? Et ainsi, il y a un verset dans Isaïe, chapitre 43. Altiskeru Rishonot. Ne vous souvenez plus des premières choses. Rishonot. Je vais vous mettre les termes clés au tableau d'ailleurs. Altiskeru Rishonot. Donc vous trouvez le verset dans Isaïe, chapitre 43. Si vous voulez d'ailleurs, j'ai une Bible là, si quelqu'un veut en même temps chercher les versets, et puis vous dites à la Sainte Assemblée où ça se passe. Alors, Altiskeru Rishonot. Les premières choses. Et les kadmoniot altid bonenu. Et les choses antérieures aux premières, n'y réfléchissez plus. Kadmoniot, c'est donc avant les choses. Antérieures. J'espère que j'ai bien lu comme ça, mais la Gemara va tout de suite le vérifier. Et il y a un verset comme ça donc dans Isaïe. Altiskeru Rishonot, Vekadmoniot, Altidbonenu. Et la Gemara dit, Altiskeru Rishonot, Ze Shirbud Malchuyot. Oui, donc j'ai bien traduit. Ne vous rappelez plus des premières choses, c'est la fin de l'oppression des empires, la fin du troisième exil. Et on vient de dire que c'est les dernières, et toi tu m'appelles ça les premières. Ça veut dire qu'il y en a encore après. Quoi après? La guerre de Gog et Magog. Oui, je reviens sur l'analyse. C'est-à-dire, Altiskeru Rishonot, il arrivera un temps où même la Gada de la Shomer HaTzair sera préhistorique. Vous voyez, comme ça va vite. En fait, le Sanhedrin est en train de faire l'impasse sur cette édition de la Gada. Mais Kadmoniot Altidbonenu, Zoyetia Kmitzraï, mais les choses antérieures, n'y réfléchissez plus, c'est la sortie des Juifs. Ça, c'est dans Isaïe, okay? 43. Parce que la suite du verset dit ceci. 43-18. La suite du verset dit ceci. C'est que, Hineni Ose Hadasha, me voici faisant une chose nouvelle, Hadasha, Ata Titzmach, dès maintenant, dit Isaïe, elle est en train de germer. Ça veut dire que le diagnostic que nous allons avoir avec Ézéchiel, eh bien, il germait au temps des prophètes. Déjà, les prophètes ont vu qu'à la fin des temps, nous aurions un problème avec Gog et Magog. Et vous voyez comment dit Isaïe, Ata Titzmach, dès maintenant, j'ajoute le dès maintenant, maintenant, Ata Titzmach, elle germe déjà. Cette chose-là, nouvelle, c'est quoi, dit la Gemara? Tane Rabbi Yosef, c'est un Rabbi Yosef qui a dit ça. Tane Rabbi Yosef, Zou Milchemet Gog ou Magog. Ça, c'est la guerre de Gog et Magog. Alors, voyez le programme. La sortie d'Égypte, la fin de l'exil d'Édom, du pays du Nord et de tous les pays. Et vous notez bien cela. Nous avons eu trois exils d'exposants différents. En Égypte, le premier, c'était tout Israël dans le même pays, l'Égypte. Le deuxième, Babel, c'était une partie d'Israël dans le même pays, Babel. Et puis le troisième, c'était tout Israël dans tous les pays, mais avec une dominante, le pays du Nord. Bon, le chemin est clair. Okay. Effectivement, ça s'est déclenché à partir du pays du Nord et c'est pas fini. J'espère qu'un jour on pourra faire la fête pour Anatoly Sharansky. Mais ça, c'est plus que des symboles. C'est le signe que c'est là-bas que ça se passe. Le Shalach et Ami. C'est pas par hasard. Et après, le programme, la guerre de Gog et Magog. Ça veut dire, on pourrait expliquer peut-être comme ça. Étant donné comment les choses se sont mises en place depuis l'origine, alors les prophètes ont pu diagnostiquer, oui, ça va arriver au royaume du Mashiach, okay, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, va surgir Gog et Magog. D'une certaine manière, vous êtes prévenu à l'avance. C'est écrit, okay, vous êtes prévenu à l'avance. Et le jour où ça arrivera, vous verrez bien que les prophètes d'Israël avaient raison. Bon, alors on ne cherchera pas les causes profondes de la guerre de Gog et Magog, il va suffire de lire le chapitre 38 d'Ézéchiel qui nous décrit comment ça se passe et on comprend quelles sont les causes profondes ou immédiates. Mais je continue. Alors vous avez vu donc la programmation, sortie d'Égypte, le royaume messianique après la fin du dernier exil, et puis voilà, Hadasha Atatitzmar, Milchemet Gog et Magog. Alors, avant d'aller plus loin, parce que là on pourrait faire une exégèse de surface qui nous prendrait trop de temps, je vais simplement vous signaler comment la tradition a identifié cela. C'est que il y a des noms qui vont nous être donnés dans les versets d'Ézéchiel. Mais c'est pas la peine de perdre de temps à faire de la géopolitique, à quelle peuplade ça correspond. C'est plus grave que ça. Parce que si vous faites la gamatria de Gog ou Magog, vous avez 70. Ça veut dire que c'est de toutes les façons une coalition de toutes les nations.
C'est
clair. 70. C'est évidemment ce qui se passe actuellement, mais depuis longtemps. Et c'est pourquoi il est très important que l'Amérique cesse d'être notre amie. De telle sorte qu'elle soit avec les 70. Vous voyez ce que je dis. Et non, je parle bien de l'Amérique, pas de la France. Grâce à Dieu, on s'en est sorti. Et et c'est ainsi d'ailleurs que va en parler Ézéchiel. Alors voilà, on va terminer la Gemara sur cela. Machal lema hadavar domé. Et à quoi cela ressemble, cette succession de Kadmoniot, Rishonot, Hadasha, hein, ce qui s'était passé à la sortie d'Égypte, ce qui se passera à la fin de l'exil présent, ce qui se passera avec Gog et Magog. Machalima d'avoir donné. Les Adam, Shayam, Haler, Baderir. Ça ressemble à un homme qui marchait en chemin. Ou Pagarboze. Il a rencontré un loup. Venitsal Mimenu, il en a été sauvé. Beayam et Saper Veoler, Maasezev. Alors il racontait l'histoire du loup. La sortie d'Égypte. Oui. Vous devinez le thème. Okay? Pagarbo Ari, mais voilà qu'il rencontre un lion. Venitsal Mimenu, et il est sauvé de lui. Alors, il raconte l'histoire du lion. L'histoire du lion a ramené dans le passé l'histoire du loup. On continue. Bagarbo Nahash, il rencontre un serpent. Venitsal Mimenu, il est sauvé de lui. Shachar Maaseshneem. Alors là, avec le serpent, il oubliait le lion et le loup. Et Veaya Mesaper Veoler Maase Nahash. Et il racontait l'histoire du serpent. Alors rassurez-vous, on va être sauvé du serpent. C'est écrit. Bon, c'est le troisième, celui-là. Bon. Car Israël, ainsi Israël, Tsarot Aharonot, les dernières Tsarot, les dernières misères, hein, c'est pire que des misères, mais enfin, on peut traduire misère, mais chaque Echot et Tarishonot font oublier les premières. Mais la fin semble être contradictoire avec tout ce qu'on a lu. Tu as dit qu'on n'oubliera pas vraiment, et tu dis qu'on va oublier. Quelle est la réponse? Comprenez ma question? Toute la dialectique de la Gemara, c'est pour dire, oui, les prophètes ont dit on va oublier. Mais c'est parce qu'il parle avec véhémence. C'est pas qu'on va oublier. On n'oubliera pas. Ça deviendra second. Okay? Et toi, tu me dis, Tsarot, Aharonot, Meshakehot, Tarishonot. Ça fait oublier les premières. La réponse est très simple. Les Tsarot, on va les oublier, pas les Geoulot. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, on oubliera les misères, pas la Yom Hatzmaout. Ça, on n'oublie pas. Pas la délivrance. C'est clair? On oubliera ce qu'on a passé en Égypte. On n'oubliera pas la sortie d'Égypte, etc. Vous avez compris, il n'y a pas de contradiction, on ne parle pas exactement même. Bon, voilà donc le texte. Alors je vous propose tout de suite d'aborder le texte d'Ézéchiel, à moins que pour être sûr, Pierre, tu as trouvé la référence? Bon, alors je vais d'abord, il me faut juste 5 minutes, vous parler des noms du Mashiach. Est-ce que la personne qui avait posé la question est quand même là?
Non, 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 il est parti.
Bon, vous lui passez un coup de téléphone. Voilà. Alors, on pose la question comme ça, innocemment, naïvement. Mashmo, quel est son nom? Vous nous parlez du Messie, mais comment il s'appelle? On va avoir des surprises. Hein. Debe Rabbi, à l'école de Rabbi, Rabbi c'est Rabbi Yehuda Kadosh. Non, c'est pas non, c'est pas lui, je m'excuse. Debe Rabbi Shila, à l'école de Rabbi Shila, le nom du Rav est ici le nom qui est attribué au Mashiach. Ben, c'est Sanhedrin, page 98A. Non, c'est 98B. Ben, c'est ça. C'est la suite d'une Gemara que nous avions faite à un séminaire, lorsque les rabbins discutaient qui viennent et que je n'ai pas à le voir. Vous vous rappelez? Yativ et Lachminé, parce qu'ils avaient peur de l'inflation. c'est juste la suite. Alors, on demande, Mashmo, quel est son nom? Alors, à l'école DB, Rabbi Shila. Il y avait une yeshiva dont le Rosh Yeshiva s'appelait Rabbi Shila. Alors, à l'école de Rabbi Shila, on cite un verset où le nom du Mashiach est appelé Shilo. Que vous connaissez déjà. Shilo, mais avec les. Quel est le verset? Vous reverrez dans la Gemara d'ailleurs les références. Le verset est Ad ki avo Shilo velo ikrat amin. Ce verset se trouve dans les bénédictions de la Torah, okay, que Moïse a donné aux tribus. Ad ki avo Shilo. Jusqu'à ce que vienne Shilo. Alors, on sait que. Il y a un verset qui dit que le Mashiach s'appelle Shilo. Vous allez comprendre tout de suite la règle. À l'école de Rabbi Shila, on a cherché un verset où le nom du Mashiach ressemble au nom du maître de la Yeshiva, tout simplement. Alors on continue. C'est clair? Bon. Et c'est simple. Debe Rabbi Yanaï. À l'école de Rabbi Yanaï, on a cité le verset Inon Shemo. Inon. Effectivement, il y a un verset qui dit Inon Shemo, Sheneemar, Hai Shemi, Yehi Shemi Leolam, Lifne Shemesh, Inon Shemo. Bon, c'est un verset de psaume. À l'école de Rabbi Hanina, alors on va dire Hanina Shemo. Là, on a de la chance, le mot lui-même est dans le verset. Okay. Et puisqu'il est écrit, chez Nehemar, Asher lo eten lachem hanina. Hanina, voilà. Et alors, avec un humour extraordinaire, la Gemara ajoute, mais Yeshomrim, et certains disent qu'il s'appelle Menachem. Bon. Et puis, on cite le verset. Alors, ce verset, que je vous le lise quand même. Parce que Menachem s'est éloigné de moi. Il est loin, loin là-bas à Brooklyn. Et vous avez compris ce que je veux dire? Non. Alors faites attention, il y a une grande machloket. Est-ce que c'est Begin, est-ce que c'est l'autre? Les deux s'appellent Menachem. Bon, alors vous voyez pourquoi il ne faut pas rentrer dans les détails. Ça, c'est l'humour de la commune. Ça y est, c'est clair? Alors tout ce qu'on peut voir, c'est que les quatre noms font apparaître le mot Mashiach. En plus, c'est joli. Tu veux dire, tu veux savoir comment il s'appelle? Eh bien, il ne s'appelle pas, il vient tout seul. Bon. Oui, c'est vrai, ça fait Mashiach. Oui. Menachem, Shiloh, Yanaï, Hanin. Inon. Inon.
Non.
Pour la série. Oui. Donc, vous avez compris quelle est la règle? C'est que il y a une espèce de diagnostic de quoi s'agit-il du fils de l'homme en engendrement jusqu'à l'engendrement ultime. Et partout où une figure de trou apparaît, alors on dit, ben, mais ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là. À l'échelle objective, historique, alors on dépasse tout cela. Et c'est le Mashiach de l'histoire pour la société d'Israël, unanime, anonyme, et l'humanité entière. C'est de celui-là qu'on parle, en parlant du Mashiach à la fin. Vous comprenez le... Sinon, on risque évidemment des idolâtries partielles, particularisées, dans laquelle il faut dire que certaines tendances racidiques ont failli risquer de tomber. Michel dirait peut-être un peu plus que moi, mais enfin, ça va dans le même sens. Et effectivement, il faut se méfier de cela, et surtout, cet humour de la Gemara est extraordinaire. On arrive à une génération. Et finalement, le problème est entre un Menachem et notre Menachem, ça, il faut le faire. Bien, alors, je crois que maintenant, on va lire attentivement Ézéchiel. Bien, vous pouvez me rapatrier le livre. Voilà. Alors, je crois qu'il faut se rappeler ce qu'il avait écrit avant. Pas que, il y a une espèce d'exposant, Gog et Magog, ça fait les 70 nations. Je crois qu'on ne peut pas ne pas diagnostiquer cela. Si invraisemblable que ça puisse paraître, il n'y a pas de doute que l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël, mais que je vais appeler dans cette lecture le rassemblement des exilés, parce que ça, c'est la description du phénomène, que pour la première fois depuis 2000 ans, il y a un mouvement de retour de tous les pays à la fois. Ça veut dire, vraiment ça, il faut le diagnostiquer. La communauté juive à Paris, par exemple, connaît quelque chose d'un peu analogue, à une échelle rudimentaire, si j'ose dire. Vous avez trois ou quatre manières d'être ashkenaz et trois ou quatre manières d'être sfarad. Qui se rencontrent et qui se marient, mazal tov pour les enfants. Bon. Mais ce qui se passe en Eretz Israël est dans des dimensions beaucoup plus colossales. C'est 120 manières d'être juif avec chacune 12 tribus. Vous comprenez? Et ça veut dire que c'est à une échelle de massivité énorme. Tous les juifs possibles et imaginables qui se rencontrent en disant tiens, tu en es, shalom, 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 et puis on embraye. Au bout de 2000 ans. Bon. Et donc, on ne peut pas ne pas percevoir que, par rapport à ce phénomène qui est en cours d'engendrement, il y a indéniablement une coalition universelle des 70 nations, chiffre symbolique de la multiplicité des nations. Je crois qu'une des dates qui resteront dans l'histoire, c'est quand l'ONU s'est rassemblée pour condamner à l'unanimité le sionisme comme étant, je sais plus ce qu'ils ont dit d'ailleurs, mais peu importe. Là, c'était tellement spectaculaire que nous avons jubilé. C'était de l'allégresse. Vous comprenez pourquoi? C'était tellement énorme. Et je crois que vous connaissez cette règle de la halakha. Quand quelqu'un est accusé à l'unanimité, alors on sait qu'il est innocent. Bon. Et à l'unanimité à ce niveau-là, quoi. Dîner n'est pas chaud, c'est pas des amendes à payer. Et puis, peut-être certainement la deuxième date, c'est quand l'humanité entière a décidé de retirer ses ambassades de Jérusalem. Ça aussi, ça va rester dans l'histoire de l'humanité. Bien. Alors, on lit le texte. Prenez les derniers versets du chapitre 37, ceux qui ont une Bible. Voilà. À partir du verset 16 du chapitre 37, alors le prophète annonce qu'il va y avoir unification entre Yehuda et Israël, c'est-à-dire unité interne d'Israël. Vous vous rappelez de ce schisme qui date depuis très très longtemps, de ces tendances de schisme entre Yehuda et Israël. Et puis, il y aura unification. Veravdi David, je prends maintenant à partir du verset 24. Veravdi David melech aleihem, et mon serviteur David sera roi sur eux ensemble réunis, unifiés. Veroae echad yelekulam, et un seul berger sera pour tous. Mishpata yelechu, ils suivront mes jugements, mes lois. Verokotam ishmeru, ils observeront mes principes de loi. Verasotam, et les accomplir. Voilà le programme en une. Unité du peuple et sous la royauté de David, de celui qui est appelé ici, Veravdi David, mon serviteur David, et soumis à une constitution que j'appellerai pas du tout théocratique, ne confondez pas les termes, mais théonomique, c'est-à-dire la véritable loi morale telle qu'elle a été révélée, dont le principe est que la moralité est le critère et pas la légalité. Vous vous rappelez des analyses précédentes. Bien. Mais Yashvu à la Haaretz, ils demeureront sur le pays, Asher Natati le Avdi le Yaakov, que j'ai donné à mon serviteur à Jacob, et ni à Ishmael ni à Esa, Jacob. Okay. Asher Yashvuba, ce pays où ils ont résidé, Avotehem, leurs ancêtres, Yashvu Alea, et ils y résideront, Hema, eux, ou Bnehem et leurs enfants, ou Bne Benehem et leurs petits-enfants, Adolam, éternellement. Et David Avdi, Nasi Lahem le Olam. Et mon serviteur David sera leur Nasi, leur prince, leur. On a dit Meler, il est Nasi. Bon. Zacharti Lahem Berit Shalom. Et je mentionnerai pour eux, je ferai venir pour eux une alliance de paix. Berit Olam, une alliance éternelle, Yéotam, sera pour eux. Untatim, je les placerai. Veirbeti Otam, et je les multiplierai. Venatati et Migdashi Betocham Leolam, et j'installerai mon sanctuaire parmi eux, en eux, à jamais. Veya Mishkani Aleem, et ma résidence sera sur eux. Veiti Laem Elohim, je serai, moi, ces dieux qui parlent, leur Dieu. Vehema Yuni Leam, et eux seront pour moi un peuple. Ve'yadou Agoim, alors c'est là que ça commence. C'est le dernier verset du chapitre 37. Ve'yadou Agoim, et les Goïm, les nations sauront qui a ni Hachem, que c'est moi Hachem, mais Kadesh est Israël qui sanctifie Israël. C'est-à-dire aujourd'hui, on est arrivé à un point où il suffira que les nations lisent ce chapitre pour qu'il s'accomplisse, si j'ose dire. Okay? Alors diffusez les Bibles sans crainte, et même si on vous envoie des bibles des témoins de Jéhovah, mais allez, pas chez vous, mais chez les autres, qui lisent tout ça. Okay. Bon. Donc, je reprends le verset. Viadou Agoïm, et les nations seront qui ni Hachem et Kadesh et Israël, que c'est moi Hachem qui sanctifie Israël, biyot mikdashi betocham, par le fait que ma résidence, mon sanctuaire sera en eux, les olam à jamais. Chapitre 38. Bayhi de Bar Hachem et là il est mort. Et la parole de Hachem s'est adressée à moi pour dire, dit Ézéchiel, Ben Adam, fils de l'homme, Sim Panecha El Gog Eretz Amagog, dirige ton visage vers Gog dans le...